Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Blaise Shindani Kambala, d'abord les grands titres. Félix Tshisekedi dévoile le gouvernement Souminois 2, une nouvelle équipe gouvernementale composée de 53 membres, marquant une phase dans la conduite de l'exécutif. Plusieurs figures sont reconduites, tandis que de nouveaux visages font leur entrée. Goma sous les chocs, double meurtre, deux jeunes de la même famille tombés sous les balles des assaillants en pleine ville, pendant que les habitants de Kabalakatambi fuient une criminalité grandissante. Lutte contre la tuberculose, un programme en péril, le docteur Jean-Pierre Malemba Tshibui, invité du journal, revient sur les conséquences de la baisse du financement américain et les défis pour maintenir la lutte contre la tuberculose en RDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette grande édition du journal Parler. À la une de ce journal, remaniement au sommet de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi a dévoilé ce vendredi la nouvelle composition du gouvernement, toujours dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce second cabinet, baptisé gouvernement Suminwa 2, marque une nouvelle étape dans la conduite de l'exécutif. Si certains ministres conservent leurs fonctions, plusieurs ajustements ont été opérés avec l'arrivée des nouvelles figures. La nouvelle équipe comprend 6 vice Premier ministre, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Les grandes lignes de cette nouvelle configuration dans le résumé de Blaise Makassinandès, rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
Parmi les principales entrées, Adolphe Mouzitou prend les rênes du ministère du Budget, Floribert Anzuluni est nommé à l'intégration régionale, Guillaume Ngefa hérite du portefeuille de la justice, tandis que Marine Yangé est chargée de l'environnement. Gilles Mbouy prend la tête du ministère du portefeuille, Micheline Ombaye est désignée au genre famille et enfants, John Banza Lunda est nommé ministre des infrastructures, Grâce Emi Coutinho devient la ministre de la jeunesse, alors que Eliezer Tamboué est nommé ministre délégué à la défense et aux anciens combattants. Moïndo Nzangi quitte le développement rural pour l'agriculture. Eve Bazaïba, l'environnement pour les affaires sociales. Guy Luando est parti de l'aménagement du territoire pour le ministère des relations avec les parlements. Acacia Bandoubola laisse les affaires foncières et va désormais s'occuper des hydrocarbures. Aimé Bogi, ancien ministre du budget, est nommé ministre de l'industrie. Pendant ce temps, Jacquemain Chabani, Jean-Pierre Bemba, Guy Kabombo Mwandiamvita, Daniel Mukoko Samba, Guylaine Yembo, Thérèse Kaikwamba, Raissa Malou, Marc Ekila, Doudou Fouamba, Samuel Roger Kamba, Julien Paloukou, Marie-Thérèse Sambo et Patrick Mouyaya Katemboué gardent leur portefeuille.
À Kinshasa, les réactions ne se sont pas fait attendre après la publication tardive du gouvernement Souminois 2. Dans les rues de la capitale, les avis sont partagés. Certains saluent la nouvelle équipe, notamment le retour remarqué de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. D'autres, en revanche, expriment leur déception, pointant du doigt la taille jugée trop importante de ce gouvernement. Ils sont tous au micro de Josué Efebe.
Alors oui, la sortie du gouvernement, on s'attendait à d'énormes surprises, mais je crois que l'attente a été longue pour rien. Beaucoup de gens sont déçus, certaines grandes têtes qui reviennent, alors que on sait que leur bilan n'est vraiment pas très reluisant. Mais on se réjouit quand même du fait qu'il y a de nouvelles têtes qui entrent et nous espérons que ces gens vont devoir apporter quelque chose.
Nous souhaiterons assez que ce gouvernement travaille au bénéfice ou l'intérêt de la population. C'est ça notre souhait, c'est ça notre attente.
Aujourd'hui, il faut évaluer les résultats du Souminois 1 pour comprendre qu'est-ce que sera le gouvernement Souminois 2. Moi, mon fils, ce matin, m'a dit, mais papa, c'est ça le nom qu'on entend chaque jour. Ah oui, mon fils, félicitations, tu suis bien la politique. C'est le nom des gens qu'on attend chaque jour. Moi, c'est les résultats qui comptent.
On a repris quasiment les mêmes têtes. Donc, je salue quand même la présence d'Adolphe Mouzitou. Son intégration, pour moi, est intéressante dans le sens où l'opposition est encore représentée. Et j'espère qu'il fera du bon travail au budget. Et à part Mouzitou, j'ai vu quand même qu'on a aussi rétréci ce gouvernement.
Nous le disions en titre, un double meurtre a été perpétré dans la soirée d'hier jeudi dans la ville de Goma, Nord Kivu. Deux jeunes issus d'une même famille ont été froidement abattus par des hommes armés circulant à moto. Une double meurtre qui plonge la ville dans les mois. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, le village de Kabala Katambi, territoire de Nirangongo, s'est vide peu à peu de ses habitants. En cause, la montée inquiétante de la criminalité, selon plusieurs témoins sur place. Les détails avec Alain Hirogumushi.
Il est 19h à Goma quand les deux jeunes gens, grand et petit frère, reviennent de leur travail. Alors qu'ils manœuvrent pour entrer dans leur parcelle, la voiture au bord de laquelle ils se trouvent, deux motos surgissent transportant quatre individus. Sans sommation, les personnes à moto ouvrent le feu sur la voiture et en blessent mortellement les occupants. La scène se déroule au numéro 275 de l'avenue du 30 juin, cellule universitaire. Après le départ des assaillants, les blessés sont transportés à l'hôpital et c'est là que le décès des deux infortunés est constaté. Les témoins indiquent qu'environ 30 minutes après ce drame, des coups de feu ont retenti vers Kivu Fiesta. Il y a environ un mois, ces bandits se déplaçant à moto ont défrayé la chronique à travers différents quartiers de la ville de Goma. Presque chaque jour, l'on déplorait des actes attribués à ces malfrats. Après un moment de trêve, ils se signalent à nouveau. Par ailleurs, dans le territoire de Nirangongo, l'on parle de la recrudescence d'actes de banditisme depuis le début de ce mois d'août, particulièrement dans le village Kabale Katambi, en groupement de Rusayo. Des individus reconnus comme faisant partie de la contrée procèdent à des incursions quasi quotidiennement dans cette localité de la chefferie de Bukumu. Usant d'armes blanches, ils attaquent les habitants dans leur résidence, les frappent et les blessent avant de prendre tous les biens trouvés dans la maison.
Pendant ces temps en Ituri, ces groupes armés réaffirment leur engagement pour la paix jeudi lors d'une réunion d'évaluation à Aru. Six factions signataires de l'accord de paix Aru 2 ont renouvelé leur volonté de soutenir le processus de paix. Cette rencontre faisait suite à une phase de sensibilisation menée auprès de leurs combattants entre le 3 et le 24 juillet. Mais des défis persistent. Les attaques d'autres groupes armés continuent de menacer la stabilité dans la région. Ce processus bénéficie du soutien de la MONUSCO. Isaac Rimoyope nous en dit plus.
Les leaders des groupes armés Codeco, Chiniatuna, MAPI, FPIC, FRPI et Autodéfense se sont retrouvés à Bunia pour dresser le bilan de la première étape de l'accord d'Aru 2. Ils assurent avoir envoyé leurs hommes dans la plupart de leurs bastions dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa pour expliquer le contenu de l'accord, cessation définitive des hostilités et interdiction de circuler avec les armes. Certaines zones trop éloignées n'ont pas pu être atteintes. Ils ont relevé aussi certains obstacles pour l'application de l'accord, l'activisme de la milice CRP de Thomas Lubanga, la méfiance persistante entre Codeco et Autodéfense accusée de soutenir la CRP, ce qui ravive les tensions entre les communautés. À cela s'ajoutent les attaques des ADF et des groupes Maïmaï, notamment contre les civils, dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Malgré ces difficultés, les signataires affirment vouloir aller jusqu'au bout du processus. De son côté, le commandant de la 32e région militaire prévient, les groupes armés qui refusent la paix seront traqués afin de ramener la sécurité en Ituri. Signalons que ces processus bénéficient de l'appui de la MONUSCO. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au sud Kivu, le village d'Ilinda, dans le territoire de Mwenga, a été frappé par un violent incendie dans la nuit du 6 au 7 août. Une dizaine de maisons ont été réduites en cendres, laissant plusieurs familles sans abri. L'origine du sinistre reste inconnue selon les sources locales. Les précisions avec Ronéline Tibonera.
Le coordinateur ad intérim de la société civile de Mwenga, Makambu Henri, confirme la nouvelle et s'est dit profondément attristé par cet événement. Il rappelle que les victimes, déjà en situation de précarité avant l'incendie, se retrouvent aujourd'hui dans une détresse encore plus grande. Face à cette situation difficile, il appelle à la mobilisation des acteurs humanitaires en faveur de ces familles dans le besoin.
Nous demandons aux personnes de bonne volonté de venir en aide à ces sinistrés qui souffrent. Et surtout, nous appelons la population à utiliser les personnes habilitées pour installer des maisons, bien que nous ne confirmons pas que c'est l'installation qui était à la base de ces fléaux.
Le site qui vous fait face à une multiplication des cas d'incendie en cette période sèche. La zone la plus touchée demeure la ville de Bukavu. Lundi dernier, au moins 154 maisons ont pris feu sur l'avenue Founou 1er et une partie du quartier Mossala dans la commune de Kadutu. Ici encore, des centaines de ménages vivent dans des conditions difficiles, n'ayant reçu aucune assistance jusqu'à présent de la part des autorités de facto.
Santé à présent au Nord Kivu, l'aire de santé de Mouchébéré, située dans la zone de santé de Birambinzo, en territoire de Rutshuru, traverse une crise alarmante. Implanté dans le groupement de Bukombo, ce centre de santé manque cruellement de moyens pour fonctionner. Médicaments, équipements, personnel, tout fait défaut. Face à cette situation, l'infirmier titulaire lance un cri de détresse. Impossible, selon lui, de prendre correctement en charge les malades dans ces conditions. Les détails avec Christian Mapendano.
C'est depuis plusieurs années que la situation au sein de cette aire de santé empire de jour en jour selon notre source. Son infirmier titulaire ajoute que l'aire de santé de Mouchébéré n'a aucun appui de partenaires qui œuvrent dans le domaine de la santé, pas d'intrants ni même de médicaments essentiels pour soigner les malades. Il ne dispose que de quelques produits pharmaceutiques, notamment du paracétamol, ce qui rend difficile une prise en charge correcte des malades dont la majorité est démunie. Ahadi Ouhore et Pitié explique la situation.
C'est de notre institution. La prise en charge des patients n'est pas correcte suite au manquement de quelques financements. Si on manque des intrants, pas de partenaires, pas de patients, les malades que nous recevons sont des malades ambulatoires. Suite au manquement de moyens, nous les transférons à l'hôpital de Mouessou.
Face à cette situation, les habitants de Mouchébéré sont contraints de parcourir un long trajet jusqu'à Mouesso dans le territoire de Massissi pour se faire soigner. Une situation qui devient de plus en plus difficile pour cette population très démunie, incapable de se payer les soins de santé appropriés dans une région grandement marquée par l'insécurité.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, avant d'aller plus loin, les étudiants originaires de la province de l'Ituri tirent la sonnette d'alarme. Profondément touchés par les tragédies qui frappent leur terre natale, ils dénoncent les massacres à répétition, les déplacements forcés, les violences sexuelles et la destruction des infrastructures scolaires et sanitaires. Dans un mémorandum adressé aux autorités politico-administratives, ce jeune engagé dresse un tableau sombre de la situation et propose des pistes concrète pour restaurer une paix durable en Ituri. Le point complet avec Jacques Moukonkolé.
Ce mémorandum est signé par le président de la CETIC, Jean-Pitou Abidong, et contresigné par les présidents des cinq territoires qui composent l'Ituri, à savoir Mambasa, Irumu, Djogo, Aru et Mahagi. Ils se disent être les premières victimes de ce drame, car ils ne peuvent étudier dans la sérénité pendant que leurs parents tombent quotidiennement l'un après l'autre. Cette situation engendre une crise financière ressentie, même dans les milieux académiques. En Ituri, les jeunes fuient vers d'autres cieux alors qu'ils auraient dû contribuer au développement de leur province. Ceux qui choisissent de rester sur place n'ont d'autre choix que d'adhérer aux groupes armés. La CETIC condamne fermement le manque de volonté à ramener la paix durable dans l'Ituri. Il fustige la politique des conflits intercommunautaires et l'exploitation des tensions ethniques à des fins électoralistes. Par conséquent, il condamne les violences perpétrées par des groupes armés au mépris des droits de l'homme. Afin d'instaurer une paix durable, ils exigent la fin des massacres et un processus incluant notamment les jeunes, les femmes et les chef des communautés. À la communauté locale, il l'exhorte à l'unité afin de neutraliser l'ennemi. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La CETIC, l'association des étudiants de l'Ituri à Kisangani, appelle le gouvernement à intensifier son soutien au FARDC sur tous les fronts. Elle plaide également pour une aide humanitaire renforcée en faveur des victimes et des déplacés. Et pour garantir une paix durable, les étudiants suggèrent soit les renforcements de la MONUSCO, soit si nécessaire son remplacement par une force robuste de maintien et de la paix.
Actualité internationale.
En Centrafrique, l'autorité nationale des élections ANE a validé mardi 5 août le chronogramme en vue des scrutins de fin d'année. Le premier tour de la présidentielle, celui des législatives, ainsi que les élections municipales et régionales auront bel et bien lieu le 28 décembre. Cependant, le cycle électoral s'étirera jusqu'au mois de juin. La phase opérationnelle a déjà débuté malgré les nombreuses inquiétudes concernant la capacité des ANE à organiser ces quadruples scrutins dans de bonnes conditions. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kanto, qui s'est vu privé de l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, a dénoncé un choix politique du pouvoir en place. Dans une vidéo Facebook publiée jeudi, il pointe du doigt une campagne de diabolisation de son parti et les silences de la communauté internationale face aux crimes contre le peuple.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est le docteur Jean-Pierre Malemba Chiboui, médecin et directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Il revient sur les défis majeurs que rencontrent ces programmes, notamment en matière de mobilisation des fonds après la décision des États-Unis de réduire leur financement. Docteur Jean-Pierre Malemba Chiboui est au micro de Florence Kizalunga.
Docteur Jean-Pierre Malemba, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Pourquoi sensibiliser aujourd'hui les autorités politico-administratives dans la mobilisation des fonds pour la lutte contre la tuberculose au pays?
La mobilisation de fonds a toujours été un de nos problèmes depuis toujours au niveau de la lutte contre la maladie. En fait, particulièrement pour la tuberculose, nous disons aujourd'hui que avec la réduction des fonds par le gouvernement américain, nous avons vu que beaucoup des activités que nous menons risquent d'aller en souffrance. Et cette souffrance des activités va impacter inéluctablement la détection des malades ainsi que leur prise en charge. C'est pour ça que nous avons déjà au niveau du gouvernement national, on a mis un plan de résilience financière en place pour essayer de réagir tant soit peu à cette absence de financement que nous donnaient les Américains. Mais on se dit, nous sommes aujourd'hui en province et que la province, je me rappelle que c'était d'ailleurs un des sujets abordés lors de la 13e conférence des gouverneurs à Colusi, c'est d'arriver à mobiliser localement les fonds pour la prise en charge de nos malades.
Selon vous, chaque province, l'enveloppe souhaitée, c'est de mobiliser au moins combien?
Je ne dirais pas autre chose que ce que le président avait dit en 2023 lors de la conférence de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose à New York. Le président avait à l'époque promis deux choses importantes. C'est la fabrication des médicaments antituberculeux en RDC. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous y sommes parce que nous fabriquons déjà les antituberculeux localement. Et le premier lot est sorti des usines, donc à Kinshasa, et a été déjà distribué dans 10 coordinations provinciales. Vous voulez savoir le montant? À l'époque, je me rappelle que le président avait promis à la conférence de haut niveau, il avait parlé $1 million par province.
Pensez-vous que ça sera possible? Parce que nous suivons souvent les gouverneurs se plaindre, ils n'ont pas de rétrocession, ils n'ont pas de financement. Où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? Et s'ils ne donnent pas cet argent, vous ne pensez pas que le risque sera encore élevé?
C'est vrai que nous sommes d'ailleurs à la bonne période, c'est la période budgétaire, c'est-à-dire que la prochaine session va être une session budgétaire au niveau du Parlement. C'est pour ça que nous martelons en ce temps sous ces mots, de façon à ce qu'on puisse, le gouvernement, voir dans un premier temps combien ils peuvent mettre. Au fur et à mesure, on pourra améliorer quand on va voir un peu dans l'assiette financière combien on peut encore mobiliser.
Parlons un peu de la province du Maniema. Comment évolue la situation de la tuberculose ici?
Parlant de la province du Maniema, la situation de la tuberculose n'est pas très réjouissante. C'est-à-dire que d'abord, sur le plan de couverture de la CPLT, nous sommes à 78%. Il nous reste encore au moins 22% qui ne sont pas couverts. C'est des malades que nous voulons avoir. Deuxièmement, on a eu 5131 malades notifiés l'année passé, mais sous les 5131 personnes, il y a eu 650 enfants de 0 à 14 ans. Ça veut dire que la tuberculose que les adultes promènent de gauche à droite finit sous les enfants qui sont les plus fragiles. Et avec ça, l'OMS nous demande que nous devons aller dans la détection à peu près 20%. Or, les 650 chez l'enfant, c'est tout simplement parce que on ne fait pas assez d'efforts à rechercher la tuberculose chez l'enfant. Cet effort-là doit être fait parce que nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont contaminés et qui ne sont pas diagnostiqués. L'OMS déclare que de tous les malades que nous les avons, c'est un dépistage passif. Mais nous devons privilégier le dépistage actif aussi, du fait que 30% des malades restent encore dans nos communautés et n'arrivent pas au niveau de structures de santé.
Quels sont les efforts que vous fournissez pour arriver à récupérer tous ces malades?
Nous avons mis en place des approches innovantes, entre autres la campagne de dépistage auprès des populations, c'est-à-dire qu'on n'attend plus au niveau du centre de santé, mais nous allons vers les populations avec les moyens qu'on a, de façon à ce qu'on puisse détecter dans la population et ramener le plus de cas. Mais on va également dans ce qu'on appelle les populations spéciales, des populations à haut risque. Dans le cas de la tuberculose, nous avons les mineurs, les prisonniers, les policiers et les militaires. Il y a également les déplacés et il y a des stratégies d'approche vers eux, de façon à ce que nous puissions le plus détecter dans ces populations, vu que les conditions de vie favorise la transmission de la tuberculose.
Docteur Jean-Pierre Malemba, Merci.
Je vous remercie beaucoup, Madame Florence Kizalunga.
C'était notre invité, le docteur Jean-Pierre Malemba Tshibui, médecin directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Il s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est par là que nous mettons un point final à notre grande édition du journal Parlé, coordonnée et supervisée par Jean Gandou Kabungo et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonsoalo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.